C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Le numéro d'aujourd'hui se penche sur la désinformation, le fait de produire et diffuser intentionnellement de fausses informations. Il est vrai que désinformer peut aussi être un moyen d'incitation à la haine, à la révolte, peut créer des tensions, voire des violences. Et récemment, la toile s'est envolée de rumeurs et fausses nouvelles autour d'un déplacement du président Félix Tshisekedi, avec bien le risque que ces rumeurs suscitent des réactions imprévues auprès de la population rennaise.
En effet, Babel, la télévision publique belge a annoncé le chef de l'État à Kigali avant de démentir l'information. Et malgré qu'il y a eu aussi le démenti de la présidence de la République, les médias sociaux en particulier ne se sont pas empêchés de partager toutes sortes de rumeurs autour de ce voyage présidentiel. Certaines ont confirmé la présence de Félix Tshisekedi au Rwanda, d'autres l'ont annoncé en Belgique pour des soins médicaux, en vacances au Cuba ou à Bali ou même en Ukraine ou en Russie. Des propos non vérifiés ni confirmés par des médias sérieux, des sources officielles, des discours partagés des centaines de fois sur les réseaux sociaux et qui ont créé un climat de suspicion, d'inquiétude ou même de colère, voire des révoltes auprès d'une certaine opinion. On va le dire simplement, c'est de la désinformation, Babel, qui dans certaines circonstances peut aboutir à des situations de violence.
Eh bien, qu'est-ce qui pousse les gens à produire de la désinformation? Pourquoi l'opinion croit vite à ces fausses informations, ces paroles dangereuses? Quelles peuvent en être les conséquences sur le climat sociopolitique dans le contexte de la crise sécuritaire, comme c'est le cas en RDC, ou simplement sur le vivre ensemble communautaire? Des questions autour desquelles nous voulons échanger avec M. Oboulokwes, il est chef de travaux à l'UNICIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Bonjour M. Oboulokwes.
Bonjour Babel, bonjour à tous les auditeurs.
Nous allons suivre d'abord le premier extrait de notre feuilleton où il est question d'une nouvelle qui circule sur la toile, une information non vérifiée qui crée un climat de méfiance parmi les étudiants.
Mais Amen. Tu te traînes moi bien. Pourquoi tu m'empêches d'entrer dans l'auditoire alors que je dois suivre les cours?
Non, aux impudiques au campus.
Non, tu ne vas pas entrer ici.
Tu n'en veux rien. Oh, contente.
Allez-vous dire au moins le problème qu'il y a avec Mbouyi? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, t'es ni à tout.
Nous refusons d'être assis à côté d'un prédateur sexuel. Qui harcèle toutes les filles de l'université.
Nous avons reçu toutes les informations sur son comportement malsain. Nous ne voulons pas de lui comme collègue parce qu'il salit l'image de notre université.
Attendez. Mais où est-ce que vous avez tiré ces folles informations?
C'est un bout. Nous ne sommes plus à l'époque où des salauds comme Bouy pouvaient continuer à se faire passer comme des anges alors que ce sont des loups. Aujourd'hui, il y a des médias qui étalent tout au grand jour.
Mais Djamba Tchengan, je n'ai rien à me reprocher d'abord.
C'est toi d'ailleurs, c'est toi.
Tu veux tiens, Mamie, nous n'en coulons tout.
Vraiment?
Vraiment?
Oui.
Vas-tu nier une information qui a même été publiée sur les vlogs de Renault? Qui a été publiée? Tu veux nier? Mon frère, n'est-ce pas toi sur cette photo? Non, dis-moi.
C'est lui.
Regarde.
Nier.
Mais regarde.
Mouillou.
N'est-ce pas toi sur cette photo entourée de plusieurs filles dans une boîte de nuit?
Non.
Ça, c'est pas toi, ça?
Tout ça, c'est n'importe quoi. Arrête de faire semblant, Mouillou. Arrête. Non? C'est plutôt une preuve irréfutable que tu ne mérites pas d'étudier à cette université. Non aux impudiques au campus.
Non aux impudiques au campus.
Non. Les impudiques ne doivent pas étudier ici.
Non aux impudiques.
Nous nous avons suivi dans le sketch, un étudiant déclaré, aujourd'hui, il y a des médias qui étalent tout au grand jour. Évidemment, sous le vocable média, on voit aussi et surtout les plateformes de réseaux sociaux. Monsieur Bouloukouès, déjà, comment vous réagissez face à l'affirmation de cet étudiant à l'image de toutes les rumeurs qui se sont propagées après l'annonce, puis le démenti autour de la présence du président Tshisekedi du Rwanda?
Oui, merci beaucoup, Babel. Je voudrais commencer d'abord par rester sur le plan tout à fait théorique. Ce que énonce cet étudiant dans ce sketch équivaut vraiment à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cette théorie du village planétaire qui remonte à un certain Marshall McLuhan, déjà dans la fin des années 60, 68, 67, qui énonçait déjà qu'effectivement, dans un proche avenir, grâce à la technologie, et aujourd'hui cela est le cas, rien ne peut plus se cacher. Donc il est interdit d'interdire, on étale tout, et voilà, on dit que tout se sait, ou tout finit par se savoir à un moment ou à un autre. Alors il se pose une deuxième question, c'est la question des médias. Si on parle des médias, ça veut dire que derrière le nom média, il y a le nom déontologie, il y a le nom responsabilité. Est-ce que tout ce qui se sait peut être dit? C'est la question fondamentale. Et la réponse, vous la connaissez. Non, tout ce qui se sait ne peut pas se dire. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a cette sorte de déviationnisme où tout ce qui se sait se dit, où on cherche même à tout savoir pour le dire, même si cela n'est pas utile, même si cela n'avance pas la société. Effectivement, ce qui est arrivé avec cette nouvelle, on ne sait pas l'appeler nécessairement une rumeur, mais on dit que c'était une nouvelle qui n'était pas celle-là, parce que le média qui l'a donné a dénoncé, c'était pas une rumeur, parce que le média avait affirmé, il y avait une source identifiée, c'était un journaliste. Plus tard, le journaliste a démenti. Donc c'était une nouvelle qui a été démentie, mais que d'autres relais, comme les réseaux sociaux, ont continué à considérer comme étant vrai, sans que personne ne puisse donner effectivement les preuves de ce qu'il affirmait.
Oui, justement, une nouvelle démentie par son auteur et par l'institution citée dans la dite nouvelle. Et pourtant, on a vu quand même, comme vous les qualifiez, d'autres relais faire preuve de beaucoup d'imagination avec des informations non vérifiées. Est-ce qu'on va dire qu'il y a eu une certaine intention de provoquer ou d'inciter à certaines réactions en produisant ces genres de fausses informations ou des rumeurs?
Oui, cela dépend de quel point de vue on prend cette situation. Écoutez, pour celui qui fait le droit, pour celui qui fait la justice, il recherche derrière le comportement des gens des infractions. Ça veut dire des comportements déviants. Mais pour un scientifique comme nous, ce n'est pas nécessairement la même chose. Pour les scientifiques, on regarde les faits dans la société. On essaie de comprendre derrière ces faits quelle pourrait avoir été l'intention de ceux qui ont continué à divulguer cette information. C'est vrai que cette information ayant été démentie par deux institutions devait pouvoir s'estomper. Et je crois que dans les médias officiels, cette information s'est estompée. Mais il faut comprendre la logique qui est derrière les réseaux sociaux. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret paraît comme étant ce que recherchent les réseaux sociaux, parce que ce côté mystique-là, ça nourrit un peu les buzz, ça nourrit les conversations. Les gens veulent se retrouver là-dedans. C'est comme les commérages de tous les jours. Voilà. Donc les réseaux sociaux sont basés quelque part sur ce type de commérage. Ça fait bien qu'on parle de quelque chose, d'autant plus qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Et les sources officielles n'ont pas dit exactement. Ils ont dit que le chef de l'État était quelque part. On sait c'est effectivement qu'il était quelque part, mais on ne savait pas exactement où il était. C'est là ce côté-là qui fait que les gens continuent à en parler dans les réseaux sociaux, comme on en parlerait dans les petites conversations de rue, les petites conversations au quartier. Alors, la question de l'intentionnalité est une question extrêmement importante, parce que même dans la définition de ce qu'on appelle la désinformation ou la mésinformation, il y a une intentionnalité. Quelle est l'intention qui existe auprès de celui qui fait, par exemple, la désinformation? Effectivement, c'est l'intention de nuire. Il y a une intention manifeste de pouvoir nuire, de pouvoir faire de la distorsion de l'information pour nuire. Voilà, on change volontairement, on crée pour nuire. Alors que, de l'autre côté, quand on va vers ce qu'on appelle la mésinformation, peut-être que l'intention n'est pas nécessairement de nuire, surtout si on ne sait pas si ce qu'on dit est vrai ou si ce qu'on dit n'est pas faux. On se retrouve dans une situation où on peut divulguer des informations sans avoir nécessairement l'intention de nuire. Il y a des gens qui ont entendu parler de ça, qui simplement pour des commérages, peut-être pour rire, tout en ne connaissant même pas les béaba, tout en ne connaissant pas où on allait, quelles étaient les indications qui étaient derrière ce type d'information. Donc, pour moi, le scientifique, c'est les deux. Donc, soit il y a une intention, qu'on constate qu'il y a une intention de nuire, de manipuler l'information pour provoquer quelque chose. Effectivement, c'est cela qu'on appelle l'infox, ça veut dire information plus intoxication ou fake news, c'est cela. Ou alors, ça participe à un processus où les gens ne savent même pas de quoi en fait ils parlent et dont ils ne connaissent pas les conséquences. C'est juste comme si les gens étaient en train de faire des commérages. Voilà un peu les deux faces que l'on peut voir dans cette situation-là.
Oui, vous parlez donc des réseaux sociaux qui se nourrissent des buzz et des buzz qui s'alimentent à partir des informations secrètes, des informations mystiques. Et évidemment, il y a ce que vous appelez intentionnalité, disons l'intention de nuire. Considérant le fait que cette intention de nuire existe, on peut dire que la désinformation, d'une certaine manière, constitue un discours dangereux, une parole susceptible de provoquer des réactions parfois violente. Mais pourquoi, monsieur Obulokwes, les gens y croient parfois trop vite, sans pouvoir critiquer, sans pouvoir se donner la peine de vérifier l'authenticité de la dite information ou la désinformation?
Oui, je voudrais d'abord confirmer ce que vous avez dit, René, qu'effectivement, la désinformation, l'intox, l'infox, et ainsi de suite, peuvent effectivement amener à des conséquences très très dangereuses. Effectivement, parce que les gens croient souvent pourquoi? Parce que parfois les gens n'ont pas la possibilité d'avoir une information contradictoire ou n'ont pas la possibilité d'accéder à la bonne information. Et quand on n'a pas cette possibilité d'accéder à la bonne information, maintenant c'est sur le plan individuel. Ceux qui ont un certain filtre, ceux qui ont des filtres pour pouvoir lire la réalité, peuvent constater que l'information que l'on diffuse est invraisemblable. Mais il y en a d'autres. À cause, j'ai dit, de ce caractère un peu mystique, de ce caractère un peu secret-là, les gens disent, comme on n'en parle pas, comme on ne sait pas exactement où ça se trouve, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Et donc, les gens font des relations et arrivent à croire, même si cela n'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est ce côté-là, le fait que les gens n'ont pas accès à l'information complète, à la bonne information, souvent, ça crée le fait que cette distorsion est acceptée finalement par ceux qui, n'ayant pas la bonne information, à force d'entendre la fausse, ils l'accréditent, parce que c'est cela. Mais comme j'ai dit, les conséquences peuvent être incalculables, surtout si cela amène les gens à agir. Si on met la dimension qu'on attire, si les gens se mettent à agir par rapport à ce qu'ils ont entendu, et que ce qu'ils ont entendu n'était pas vrai, mais les conséquences, effectivement, peuvent être désastreuses.
Merci, monsieur Obulokwes. Donc, le manque d'accès à la bonne information rend crédible la désinformation. Nous passons au deuxième tableau de cette émission pour justement nous rendre compte de la façon dont la situation peut évoluer lorsque des fausses informations se propagent et dictent les réactions des uns et des autres. Nous revenons donc dans notre sketch.
Cette histoire commence à me hanter partout. Tu sais, on publie des fausses informations sur les réseaux sociaux, sur toi, et tout le monde y croit et t'accuse.
Mais en plus, ces accusations sont très graves. Surtout que l'auteur n'a fourni aucune preuve dans cet article. Moi, je dis, c'est inacceptable.
Tu es vraiment naïf.
Tu es vraiment naïve.
Tu es naïve en quoi?
Tu veux quel type? Non mais Mouta, dis-moi, tu veux quel type de preuve encore?
Tout naïve,
au moment où l'auteur de cette publication est une icône dans le journalisme et il travaille pour un média en ligne qui est très suivi. Bah toi, Mouta, fatigue quel est le média?
Mouta, ma chérie, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Mouta. Arrête de dormir en plein jour. Faut qu'on ait souté. Maman, juste en voyant la manière dont cette publication a été visitée et partagée, cela porte à croire qu'elle est vraiment fiable.
C'est ça.
Fiable.
C'est ça.
Oui.
Kitoko, d'ailleurs, mon ami, il faut que tu m'as partagé l'information ma groupe et autres à WhatsApp. Quoi? Pour que toute WhatsApp, la communauté estudiantine sache qu'un prédateur sexuel est parmi nous.
Vous non, avez perdu la tête sur Instagram.
C'est ça.
TikTok,
vous avez perdu la tête.
On va publier partout.
Vous allez perdre la tête. Hein? C'est toi qui l'as bien fait, hein? C'est quoi ça? Vous vous rendez compte des conséquences que peuvent suivre pour Mbouy si vous continuez à partager une fausse information pareille?
Quelle conséquence? C'est quoi aussi,
je refuse d'être accusé injustement sur base des fausses informations. Ridicule.
Écoute ça.
Maintenant, vous allez vous écarter et me laisser entrer dans l'auditoire.
Tu vas entrer où?
Tu vas entrer. Mais Mbouy,
une fausse information circule, nous venons de suivre, cela fait monter la tension entre les étudiants. Monsieur Boulokwes, lorsqu'elle est animée par des intentions malveillantes, la désinformation peut bien constituer un discours dangereux. Et selon vous, quel est le risque pour un pays lorsque ce genre de discours visant de toute évidence à désinformer circule sur le chef de l'État? Ça peut être sur l'armée, la police ou encore des institutions de premier plan dans le contexte socio-politique de notre pays.
Oui, le premier danger pour un pays, surtout pour un pays comme le nôtre, le premier danger c'est justement que des informations n'étant pas vérifiées, n'étant pas vraies du tout, puissent provoquer des troubles sociaux ou puissent amener des personnes à adopter des comportements contraires à la loi. C'est cela le plus grand danger. Parce que n'ayant pas la bonne information ou ayant cru à des informations qui ne sont pas celles-là, quelqu'un peut agir jusqu'à enfreindre la loi. Et cela serait très grave, surtout sur le plan de la sécurité. Imaginez-vous que, après cette information dont nous parlons tout à l'heure, que des gens aient agi contrairement à la loi, en estimant par exemple que le chef de l'État aurait fui, voilà, ou il était malade, il serait dans un état piteux, et que voilà. Tout cela, ça peut amener effectivement à des problèmes sécuritaires très 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 graves pour le pays, pour la personne qui le dit et qui peut être poursuivie pour avoir répandu de fausses nouvelles, voilà, comme on dit, pour avoir répandu de faux bruits qui ne seraient basés sur rien. Et j'ai retenu de ce qu'ont dit les étudiants dans le sketch tout à l'heure, quelque chose d'important, c'est qu'à un moment, il y a une étudiante qui dit, mais cette information est venue d'un journaliste qualifié. Donc ça veut dire que la crédibilité de cette information pourrait être lié à la notoriété de la personne qui la donne.
Oui, oui. Avec cela, est-ce qu'il n'y a pas risque, justement, qu'on commence à assister à une méfiance, hein, une certaine méfiance, que la population ne donne plus crédit aux autorités ni aux propos qu'elles tiennent?
Oui, c'est cela. J'étais en train de le dire tout à l'heure, la crédibilité d'une information peut être liée à la notoriété de la personne qui la donne. Alors, par rapport aux autorités, ce qui arrive souvent, la méfiance intervient lorsque une, deux, trois, quatre fois, la désinformation est passée et qu'il n'y a pas eu vraiment une réaction en titre d'information, de bonne information, de la part de ceux qui sont censés la donner. Une fois que ceux qui sont censés donner la bonne information vont la donner, effectivement, petit à petit, la méfiance va baisser. Mais la méfiance augmentera lorsque chaque fois qu'il y a ce type de situation, on n'a toujours pas accès à la bonne information. À ce moment-là, la méfiance va augmenter et la mauvaise information deviendra plus crédible encore. Voilà, c'est ça le mécanisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la méfiance augmente tant que la compétence de ceux qui doivent donner l'information ne font pas leur travail. Une fois que ceux qui sont compétents pour donner l'information donnent l'information à temps, sans mythifier quelque chose, la méfiance va baisser et voilà. Donc c'est sur une balance.
Justement, comment voyez-vous une société où l'univers de la communication est pollué, pour emprunter le terme employé par notre confrère français Ligodi pour titrer son dernier ouvrage? Donc l'univers de la communication est pollué par des discours mensongers, des informations portant sur la personne, sa race, sa tribu, l'identité. Comment voyez-vous les relations entre les institutions, les relations entre les dirigeants et la population dans une société pareille?
D'abord, il va être difficile dans un proche avenir de pouvoir dépolluer complètement la société parce que les moyens de communication augmentent et viennent en vitesse, avec une certaine vitesse sur le plan de leur évolution. Ça va donc être difficile parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des pans entiers, des populations qui ne sont pas encore, disons, affectées par les nouveaux médias. Donc, ils le seront à un moment ou à un autre. Ce qui fait que dans un proche avenir, ça va être difficile de dépolluer totalement la société. Mais on peut trouver des mesures correctives. Les premières mesures correctives concernent justement ce que je disais, c'est la crédibilité de l'information.
Oui, monsieur Boulokwes, vous êtes déjà en train de tirer des leçons. Nous abordons justement ces conclusions-là, ces leçons, dans la troisième partie de notre magazine. Ce sera juste après avoir suivi cet extrait de notre sketch.
Attendez. Mon Dieu, mais ce n'est pas vrai.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quoi?
Non, mais Amani, regardez bien d'abord cette
photo. Mais on a déjà vu la photo. Non, mais
regardez bien cette photo de Mboui. Je crois que cette photo n'est pas authentique.
Elle est authentique. Non. Ce n'est pas possible. La photo, elle est bel et bien authentique.
Toi aussi.
Regardez
bien.
Elle est sous la mouille.
Cette photo est tellement vague et moins claire, je te dis.
Non, Mbouille, c'est Mbouille qui est là.
Ah oui, je me rappelle. Cette photo a été prise dans une autre circonstance, lors d'une fête qui avait eu lieu au campus, et Mbouille n'était même pas là.
Ah bon, finalement.
Non mais, papa.
On m'a attrapé.
C'est d'ailleurs toi, Amani, qui avait capturé cette photo. Papa, c'est toi qui avait capturé cette photo. Moi-même, je suis là.
Regarde sa photo.
C'est lui.
On m'a
attrapé. Mais expliquez-moi comment je me suis retrouvé sur cette photo alors.
Ah oui,
je
veux
bien comprendre. Qu'as-tu manigancé? Dis-moi, c'est toi qui es derrière tout ça?
Oui.
Amani.
Les amis, je tiens vraiment à m'excuser.
Tu m'as beaucoup tout le temps,
mes amis, excusez-moi. C'est moi qui avais trafiqué la photo, j'accepte.
Quoi? Donc c'est toi qui as trafiqué cette photo et tu accuses à tort, Mboui.
Mais pourquoi tu fais ça? Oh non, tu as induit tout le monde en erreur.
En fait, j'ai été contacté par les responsables du média en ligne qui m'avaient proposé de l'argent pour que je l'aide à détruire la carrière de Mboui.
Détruire la carrière de ton ami. Et puis, tu as accepté facilement comme ça.
Tu as soifé
d'argent.
Ils sont pas amis.
Il m'a dit qu'il voulait détruire la carrière de Mboui en diffusant des fausses informations pour le déshonorer. Il semble qu'il voulait assurer une place à l'université qui remplace celle de Mboui.
Tu es un salaud.
Oui, je suis un salaud.
Mais comment ai-je pu me précipiter à croire en toi? Comment? Si tu développes ces fausses informations, comment j'ai pu...
En tout cas, on était tous nuls à ne pas chercher à comprendre les vraies motivations derrière cette info.
En tout cas, les gars, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, les gars.
Vous pensez que cela va s'arrêter ici? Tu penses que ça va s'arrêter là? Tous les étudiants qui ont relayé ces fausses informations doivent subir des sanctions.
Je suis d'accord.
Vous avez tenu des propos irrespectueux qui portent atteinte à ma réputation.
Je vous préviens
que je dois saisir les autorités de l'université.
Pardonne-moi.
Pardonne-moi. On peut trouver un arrangement. Ça peut s'arranger, bro.
Moi qui croyais que j'ai discuté avec des intellectuels capables de réfléchir et de vérifier les informations. Je me rends compte que je suis en face des pauvres naïfs qui croient à toutes ces conneries qui pullulent sur les réseaux sociaux.
Bro, pardonne-moi. Pardonne-moi, les gars. Est-ce que vous me pardonnez, les gars? Pardonnez-moi, mon Samé.
Les étudiants viennent de découvrir que l'information au centre des discussions était en fait en montage dont la finalité était seulement de nuire. Monsieur Boulokwes, en dépit du fait qu'ils sont le canal privilégié de la désinformation, les réseaux sociaux s'imposent aujourd'hui comme le moyen de transmission d'informations le plus rapide et le plus utilisé. Alors comment pouvoir réduire la circulation des propos ou des discours portant sur la désinformation à travers les réseaux sociaux? Quels sont les piliers sur lesquels une société comme la RDC devrait s'appuyer pour tant soit peu se rapprocher de cet idéal? Vous avez déjà commencé d'ailleurs à aborder ce sujet.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je disais que la montée fulgurante des réseaux sociaux n'est pas passée à arrêter maintenant, parce qu'effectivement, c'est encore en train de se répandre, c'est encore en extension. Et techniquement, la RDC n'a pas tous les moyens de pouvoir arrêter, par exemple, comme on fait dans pays tels que la Chine, pouvoir boucher, par exemple, un des réseaux sociaux. D'ailleurs, ça serait aussi enfreindre peut-être la liberté des gens. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des mécanismes de production du contenu, de telle sorte que même si sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut, mais qu'il y ait une sorte de filtre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la production de la bonne information pour que la bonne information vienne chasser la mauvaise. Parce que s'il n'y a pas la bonne information à temps, elle peut exister, mais si elle ne vient pas à temps, et si cette bonne information ne vient pas par les canaux qui sont crédibles, par les canaux officiels qui devraient pouvoir la donner, par des canaux compétents, eh bien, la fausse information va se répandre, jusqu'à atteindre des proportions inimaginables. Pour moi, vraiment, le principe, il est simple. La bonne information chasse la mauvaise. Et donc, il faudrait que, par exemple, pour les institutions, qu'il y ait une sorte de mécanisme d'information préventive. Il faut qu'il y ait une veille informationnelle, de telle manière que chaque fois qu'il y a des activités qui sont prévues, que des informations préliminaires soient données au fur et à mesure jusqu'à ce que l'événement se passe et même jusqu'à communiquer après l'événement pour garder la population dans les faits, dans l'information et dans la communication publique, celle qui est la plus connue, celle qui est la plus véridique. Et si on laisse l'espace, un seul moment où il y a de la distraction, un seul petit vide dans le traitement ou dans la diffusion de la bonne information, eh bien, la mauvaise information va prendre place, elle va s'installer, d'autant plus que tout le monde aujourd'hui n'a pas la possibilité de suivre les médias officiels. Donc, pour le pouvoir public, il faut investir également dans les réseaux sociaux, trouver les mécanismes d'avoir de relais dans les réseaux sociaux qui soient capables de pouvoir rectifier chaque fois qu'on le peut les informations qui sont mal données, ou alors de prévenir en donnant en amont les informations véridiques. Il faut donc un investissement en termes d'intelligence stratégique, communicationnelle, pour investir les réseaux sociaux avec de la bonne information, de l'information qui peut permettre à la société d'aller de l'avant. Dès qu'il y a un vide, la mauvaise information va s'installer durablement.
Investir pour la bonne information sur les réseaux sociaux, Monsieur Obulokwest, vous évoquiez tout à l'heure ces mécanismes de veille informationnelle. Et on a vu récemment la dynamique des politologues de la RDC lancer le politoscope, un mécanisme de monitoring des discours de haine et de la désinformation, bien sûr, dans la sphère politique congolaise. Pensez-vous que cet outil peut être une réponse efficace face à la propagation des fausses nouvelles, étant donné qu'elles constituent évidemment des discours dangereux?
Oui, c'est un bon mécanisme qui peut contribuer à un certain niveau, parce que le fait de faire le monitoring, de savoir quel type de discours passe, quels en sont les auteurs, à quel moment, dans quelle plateforme cela passe le plus, c'est déjà un bon début. Cela permet de commencer à prévenir, pour savoir que si ces informations passent plus de tel endroit à tel endroit, ou ça vient plus de tel autre endroit, il y a moyen justement d'aller travailler à cet endroit-là pour pouvoir prévenir. Mais in fine, la solution vraiment globale, ça serait celle, comme je dis, d'investir dans l'éducation aux médias. Il faut éduquer les gens à la consommation des médias et à la consommation des réseaux sociaux. Si on investit là-dedans, à bien faire le monitoring, on peut effectivement commencer petit à petit à apporter des solutions. Je vais donner un exemple. Pendant les élections, ici on a vu, on sait d'où venaient les discours de haine, envers qui, envers quel type de communauté. Voilà, ça c'est des choses que l'on connaît. On peut investir maintenant pour que dans l'avenir, on aille atteindre ce type de communauté en avance, en donnant des informations qui conviennent, pour que ceux qui veulent fabriquer la mauvaise information aient très peu d'espace pour pouvoir le faire.
Voilà, merci Monsieur Obulokwest. La bonne information donc vient chasser la désinformation. C'est la fin de ce numéro de C'est le temps qui fait la panique, ce magazine fruit d'un partenariat entre la bénévolence à Grand Lac et Radio Capi, pour vous alerter sur les discours de haine. Magazine qui a porté aujourd'hui sur les conséquences de la désinformation en tant que discours dangereux, René.
En effet, Babel, désinformer, c'est produire et diffuser intentionnellement de fausses nouvelles ou informations mensongères avec pour objectif, entre autres, de désorienter l'opinion, de nuire à l'autre. Et c'est très fréquent dans la sphère politique de la RDC. On l'a vécu d'ailleurs, M. Obul le soulignait tout à l'heure, en période électorale. Eh bien, comme toute parole dangereuse, la désinformation peut inciter à des actes de violence, attiser des tensions entre organisations politiques ou autres, ou encore entre communautés ou nations. Combattre ce fléau, c'est avant tout interroger l'authenticité de toute information qui nous parvienne, la critiquer afin d'éviter de se retrouver à propager des discours de haine, à propager de la désinformation. Eh bien, l'éducation aux médias, Babel, s'impose à cette fin comme l'un des moyens les plus efficaces. Et M. Obulokwest nous invitait tout à l'heure à y investir beaucoup de moyens, mais aussi à s'y investir.
C'est le temps qui fait la panique. Nous disons merci à M. Obulokwest, chef de travaux à l'UNICIC, ex-IFASIC. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Tout point de rendez-vous vendredi prochain, 8h30, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci en rediffusion samedi, 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Capi, ou à tout moment sur radiocapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Capi et abari-rdc. Encore une fois, merci. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.